La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri. La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de la mêlée de l'info, l'émission que Radio Présence consacre chaque semaine à l'actualité nationale. Je salue les trois invités qui ont accepté de débattre ensemble aujourd'hui. Tout d'abord, Marie-Christine Monnoyer, professeure des universités, membre de la chaire Jean Rodin à l'Institut catholique de Toulouse. Je salue également Pauline Albouy-Pomponne, conseillère municipale de Lavaur, référente Occitanie du parti Place Publique. Et je salue enfin Alexis Chanu, membre des Jeunes Républicains de la Haute-Garonne. Bienvenue aussi à vous trois, merci d'être fidèles au rendez-vous de la mêlée. L'information qui occupe la une de l'actualité nationale depuis une semaine est à la fois judiciaire et politique. C'est bien sûr l'annonce jeudi dernier de la condamnation de Nicolas Sarkozy à 5 ans de prison avec mandat de dépôt à effet différé, jugement assorti d'une exécution provisoire par le tribunal correctionnel de Paris, et ce pour association de malfaiteurs dans ce qu'on a appelé l'affaire libyenne ou l'affaire du financement libyen. Les autres chefs d'accusation ont en revanche été levés, le financement illicite de campagne électorale, le recel de détournement de fonds publics et l'enrichissement personnel n'ont pas été retenus contre l'ancien président de la République. Comment avez-vous réagi en apprenant la condamnation et la sévérité de la peine infligée à Nicolas Sarkozy? Est-ce qu'elle vous paraît proportionnée en regard des faits qui lui sont reprochés? Et on commence avec Marie-Christine Monnoyer.
Qui n'est peut-être pas la plus qualifiée, puisque je ne suis pas juriste, je ne suis pas politiste, mais bon, visiblement je suis la plus ancienne autour de la table, donc c'est peut-être une bonne raison. Eh bien, moi, je ne suis pas choquée par la peine qui a été prononcée. Je suis choquée par d'autres choses, et en particulier par les réactions de l'entourage de M. Nicolas Sarkozy. Mais j'ai bien étudié le texte, pas les 430 pages.
Je pense qu'assez peu de gens ont lu les 430 pages.
Je dois avouer que je n'ai pas lu les 430 pages, mais je lis beaucoup la presse et donc j'ai lu avec attention les explications qui étaient données pour pouvoir comprendre pourquoi justement cette peine avait été infligée et pourquoi est-ce que certains s'en offusquaient. Alors, les fautes sont graves, extrêmement graves. En plus, cela fait maintenant plus de 10 ans que non seulement ces faits-là sont reprochés, mais qu'il y a eu d'autres jugements, d'autres condamnations, un bracelet électronique qui est porté à la cheville, mais enfin c'est quand même un bracelet. Et donc, on ne peut pas dire que M. Nicolas Sarkozy, notre ancien président, avait un casier judiciaire vierge. Et donc, les choses sont lourdes. Et il me semble que forcément, lorsque l'on a déjà plusieurs lignes sur son casier judiciaire, eh bien, les fautes qui sont reprochées sont regardées avec beaucoup d'attention. C'est d'autant plus vrai que quand on est président de la République, ou quand on était aspirant à être président de la République, ministre de l'Intérieur, on n'est pas en deuxième année de droit. On a nettement plus de connaissances sur les lois qui existent pour certaines. La fameuse association de malfaiteurs, elle existe depuis 1810 dans le Code pénal. Donc tous les étudiants en droit ont appris. Bien entendu, certains savent qu'elle a été supprimée par François Mitterrand, puis réintroduite en 1986 par Jacques Chirac. Et donc cela veut dire que Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, etc. étaient au courant de tout cela. Et donc, quelque part, quand on agit et qu'on connaît les textes de loi, est-ce que ce n'est pas plus grave encore que, ne les connaissant pas ou ne connaissant pas forcément leur gravité, on contourne la loi? Or, comme il a été rappelé par Madame le juge et un certain nombre d'analystes, 85% des gens qui sont condamnés pour à l'association de malfaiteurs vont en prison. Et les 15% qui restent ont parfois commis des associations de malfaiteurs qui sont quand même pas de la nature d'avoir parlé avec le responsable de la Libye, qui n'était pas non plus un angelot, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc tout ça, c'est tellement lourd, c'est tellement grave que... Il est condamné et pourtant on a quand même fait attention, on ne l'a pas emmené tout de suite en prison, comme c'est le cas pour deux des autres condamnés qui sont partis immédiatement depuis le prétoire jusqu'à la prison. Donc c'est épouvantablement grave.
Et pour vous, l'association de malfaiteurs est avérée, parce que c'est ça la question.
Bien sûr, elle est avérée. Même si le fameux texte, la note Coussa, on n'est pas tout à fait, c'est Coussi Coussa. Bon, c'est peut-être pas drôle.
Moussa Coussa, je précise, parce que bon. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas du tout de qui on parle. C'était le chef des services secrets libyens à l'époque.
Voilà, donc c'est pas non plus, là encore, un enfant de cœur, quoi. Et on sait que de l'argent est venu en France. On le sait et on sait même les montants. On ne sait pas, et le texte le dit très bien, s'il a été utilisé pour la campagne de M. Sarkozy.
C'est pour ça que ces chefs d'accusation ont été levés.
Voilà. En tout cas, mais l'argent est arrivé en France. Et il n'est pas arrivé, je suis désolée, par l'opération du Saint-Esprit. Hein, il est arrivé sans doute dans des petites valises.
Pauline Albouy-Pomponne, alors vous aussi, je suppose que vous avez un petit peu étudié cette affaire à travers tout ce qui a pu être relaté dans la presse et éventuellement aussi sur des sites juridiques. Quel est votre avis, vous, sur la condamnation elle-même et sur la sévérité de la peine qui a été infligée à Nicolas Sarkozy?
Bonsoir à toutes et tous. Moi, je ne suis pas juriste non plus. Et je suis, par contre, élue de la République. Donc, en tant qu'élue de la République, je suis profondément démocrate. Et en ce sens, je ne commenterai pas la décision de justice parce qu'elle appartient au juge. Et moi, j'ai la faiblesse, peut-être, de faire confiance à l'institution judiciaire parce que c'est un des piliers de notre démocratie qui est, je pense qu'on y reviendra dans cette soirée, qui est profondément attaquée aujourd'hui et de l'intérieur et de l'extérieur. Et donc, je n'ai pas d'avis sur l'association de malfaiteurs, l'accusation de monsieur Sarkozy. Mais ma réaction, puisque c'était votre question préalable, primaire, en fait, ma réaction, c'est que j'ai eu mal. J'ai eu mal à ma démocratie quand j'ai vu... Cette condamnation, parce que ça veut dire que des personnes qui ont exercé des hautes fonctions dans notre État, qui ont pris des décisions pour nous, pour l'ensemble des Français pendant 5 ans, ont été condamnées pour association de malfaiteurs. Et quelque part, ça questionne. Ça questionne notamment sur les processus démocratiques de notre pays. Et donc, j'ai été aussi profondément choquée par les réactions, comme le disait... Madame Monnoyer, à l'instant, et la remise en cause de ces décisions qui font suite aux remises en cause de la décision sur Marine Le Pen, qui est assez récente aussi. Il y en a d'autres. Il y en a une aussi sur la région qui nous concerne, sur la 69.
Les décisions de justice en France, depuis quelque temps, sont souvent discutées, voire remises en cause.
Exactement. Donc voilà. Moi, ma réaction, c'est plutôt une réaction de peine. mais pas pour M. Sarkozy, pour notre démocratie, notre fonctionnement démocratique.
On avait compris que ce n'était pas la peine infligée à Nicolas Sarkozy qui vous peinait le plus. Double peine, si on peut dire. Alors, Alexis Chanu, vous, en revanche, vous êtes étudiant en droit. Je n'ai pas précisé tout à l'heure en vous présentant. Et en plus, vous êtes au jeune républicain de la Haute-Garonne. Donc, vous avez toutes les raisons d'avoir regardé cette affaire de très, très près. Peut-être que vous, vous avez lu, je ne sais pas, les 400 pages
non
du
plus.
Jugement. Non plus. Bon, on
non
peut plus,
plus
faire confiance à personne.
Non,
mais bon, de toute façon, vous devez avoir un avis peut-être un peu plus éclairé que le mien.
Alors peut-être pas, mais comme tout le monde, je ne suis pas, enfin comme tout le monde ici autour de cette table, je ne suis pas juriste non plus. Néanmoins, tout d'abord, j'aimerais, dans un premier temps, condamner les menaces qui ont été faites aux juges. C'est quand même aujourd'hui dans notre pays assez grave parce que moi aussi j'ai confiance à notre justice. Néanmoins, le reproche qui est fait, c'est peut-être d'avoir un acharnement. Depuis 10 ans, vous l'avez dit, 10 ans sur Nicolas Sarkozy. Mais quand bien même, je pense que si aujourd'hui, parce que le juge applique la loi, si aujourd'hui on considère que la loi, en grande majorité dans notre pays, n'est plus d'actualité, il faut la changer. Donc moi je veux bien qu'on me dise la loi, enfin la peine a été dure, etc. Mais là où je vais aller un peu à contresens, c'est que c'est la loi. Alors, la loi est dure, mais c'est la loi. Donc, si jamais...
dure à l'ex,
c'est l'ex. Exactement. Mais à un moment donné, eh bien, il va falloir changer de toute façon, parce qu'on voit qu'il y a un déferlement et une grande majorité, j'ai envie de le dire, de personnes qui se sont offusquées contre cette décision de justice. Néanmoins, pareil, les citoyens ont le pouvoir de changer quelque part aussi la loi en élisant des parlementaires. Donc, si vraiment... l'application de cette décision de justice ne leur convient pas, alors eh bien, il faut, changer leur vote au moment des élections législatives. Parce que la vraie question, c'est ça aussi. C'est qu'on arrive dans un moment où, en fait, chaque décision va être contestée et chacun va rajouter un peu son grain de sel. Mais la question, c'est pourquoi ? Est-ce qu'on considère que la justice, peut-être que... je ne sais pas, alors je ne vais pas dire qu'elle a deux vitesses, même si c'est le sentiment de beaucoup de personnes... Mais qu'à un moment donné, il faudra du changement dans tous les cas. On le voit, parce que, vous l'avez dit, les menaces qui ont été faites aux juges, tout ça, avant, il n'y avait pas. On n'avait pas.
C'est
peut-être qu'aujourd'hui, il y a une différence aujourd'hui entre le ressenti.
Récurrent.
Peut-être qu'aujourd'hui, pour certains de nos concitoyens, peut-être une majorité, je ne dis pas que c'est partout le cas, mais peut-être que la justice n'est plus juste pour certains. Et
oui.
Ça devient un vrai débat.
Alors, on va en parler de ces histoires de la République des juges, du pouvoir des juges. Bon,
oui.
Une chose tout de même, je veux revenir sur le jugement. Il y a cette histoire d'exécution provisoire qui a été donc prononcée par le tribunal, ce qui fait que Nicolas Sarkozy, le jour même, il est en prison. Quoi. Oui. Est-ce que c'était nécessaire, ça, selon vous? Certains, ceux qui défendent Nicolas Sarkozy, y ont vu une volonté de l'humilier, en plus non seulement de le condamner, mais de l'humilier. Marie-Christine Monnoyer, est-ce que c'est un argument que vous retenez?
Non, je ne le retiens pas parce que, d'abord, ce qui est humiliant, c'est d'avoir commis une faute et que cette faute soit désormais connue de tous.
Faute que ne reconnaît pas Nicolas Sarkozy.
Peut-être.
Il en appelle. Hein.
Non, mais il a tout à fait le droit et il va en appel. Et contrairement à ce qu'avait dit notre ancien Premier ministre, l'exécution provisoire n'empêche pas d'aller en appel.
D'ailleurs, il a pu aller en appel
immédiatement. Et en plus, cette exécution provisoire, elle est pensée en fonction aussi des personnes. Elle a été plus généreuse, plus gentille avec Nicolas Sarkozy qu'avec M. Djoury. Donc, c'est quand même un point extrêmement important. Donc, au fond, le juge n'a pas été si vindicatif. La juge n'a pas été si vindicative. Elle a dit, c'est un ancien président de la République, il a sans doute besoin d'avoir un peu de temps pour se retourner avant de se retrouver derrière les barreaux. Et on a aussi immédiatement dit que cette exécution provisoire ne l'empêcherait pas de faire appel et ensuite de faire appel de la modification de la position, enfin de la situation en prison. Donc en fait, l'humiliation, moi je vous rejoins beaucoup parce que je trouve que c'est la République qui est humiliée. J'ai voté Sarkozy. Bon,
J'espère qu'il vous sera beaucoup pardonné pour cet aveu.
C'est déjà un peu vieux. Donc bon, mais à une époque, j'ai voté Sarkozy. Et savoir que j'ai voté pour un homme qui a cherché à trouver des moyens financiers auprès de la Libye pour pouvoir être élu, ça me tue.
Bon. Pauline, à Louis Pomponne, vous, l'exécution provisoire, ça vous paraît peut-être une sévérité supplémentaire qui n'était pas forcément nécessaire, ou vous comprenez ?
Non, moi je comprends. Encore une fois, je n'ai pas une culture juridique très étendue, mais j'ai cru comprendre que c'était dans 85% des condamnations qu'il y avait une exécution provisoire. Donc ce n'est pas l'exception.
Oui, ce n'est pas un traitement spécial, vous voulez dire.
Non, ce n'est pas un traitement spécial. On n'oublie pas qu'on est à l'aube d'échéances électorales très importantes pour notre pays, que Nicolas Sarkozy est quelqu'un qui a de l'ambition, qui n'avait pas tout à fait donné l'impression d'être retiré tout à fait des affaires, était encore très présent auprès de nos gouvernants notamment. Et donc moi je comprends qu'il y ait cette mesure un peu de protection de la République et des citoyens par rapport à quelqu'un qui est toujours présumé innocent, hein, puisqu'il a fait appel, mais bon, qui présente quand même un risque. Moi, je ne suis pas du tout choquée.
Mais un risque de quoi, selon vous ? Qu'est-ce qu'il y a comme risque de... Pourquoi faut-il l'envoyer en prison tout de suite ? On a peur qu'il parte à l'étranger.
Après, il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui demandait aussi de nettoyer la racaille au Karcher. Enfin, moi, on connaît tous ce qu'il a pu dire sur les délinquants. Donc voilà, enfin, je veux dire... on applique. La loi s'applique à tout le monde. La justice, c'est un processus qui s'applique à tout le monde. Et ce n'est pas parce qu'on a été ancien président de la République qu'on doit avoir un traitement spécial dans un sens ou dans l'autre.
Voilà. Alexis Chanu, vous, l'exécution provisoire, ça vous a choqué ou comme nos deux autres intervenantes, vous comprenez ?
Je vais vous dire, de toute façon, je ne peux pas changer la loi. Hein. Avant de vous le dire, donc je pourrais avoir un avis.
Non, mais ce n'est pas une obligation, si vous voulez, l'exécution provisoire.
Et bien sûr, mais quoi qu'il en soit, c'est tombé. Donc, dans tous les cas, il devra s'y plier. Mais encore une fois, moi, je parle vraiment du sentiment des Français qui émerge et qui est dangereux, en réalité. Parce qu'on voit qu'il y a une colère qui gronde, parce qu'on considère que... Alors, je ne dis pas forcément que c'est une vérité vraie, mais quand on voit qu'il y a des jeunes délinquants qui caillassent des policiers, mais qui ne vont pas en prison, et qu'on voit qu'on
s'acharne... Oui, c'est ce qui, évidemment, a été opposé
mais justement, c'est l'argument numéro un. Et en soi, ils n'ont pas vraiment tort. Donc le problème, c'est que je pense qu'il faut vraiment revoir dans la globalité les lois. Bon, c'est un travail qui est vraiment très...
C'est
un gros chantier. Mais je pense que c'est nécessaire parce qu'on voit qu'aujourd'hui, la colère gronde, la colère monte. Et que... il y a un sentiment. Et le problème, c'est le sentiment qui monte.
Alors Marie-Christine Mamani n'a pas l'air d'accord.
Non, je ne suis pas d'accord du tout.
Mais c'est quand même une réalité que la colère monte.
Ça, c'est tout à fait une réalité.
Donc, il faut bien se poser des questions.
Non, la colère monte et dans tous les domaines. Oui, pas uniquement dans le domaine...
Certes.
Dans le domaine. Mais là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que si la justice est devenue plus sévère, ça n'est pas extrêmement vieux. Ça date de 1980. Bon, 1980, vous n'étiez pas né, d'accord, moi si. Eh bien, depuis 1980, ça fait donc 45 ans. Pourquoi est-ce que la loi est devenue plus sévère ? Parce qu'avant, elle était fondée sur l'autorégulation des pratiques des hommes politiques, en particulier sur le plan financier. L'autorégulation. Et en fait, l'autorégulation, c'est complètement dérégulé. À partir du moment où l'autorégulation n'a plus fonctionné, on a commencé à faire des textes. Et depuis 1980, on a fait des textes avec tous les gouvernements de gauche et de droite qui se sont succédés et qui sont devenus effectivement de plus en plus sévères. Vous ne pouvez pas vous souvenir encore, mais Monsieur Bérégovoy, quand un ministre est mis en examen, il doit démissionner. Plus personne ne le fait d'ailleurs. Et donc, on a bien été obligé de développer une jurisprudence et des textes de loi plus sévères parce que le comportement de certains hommes politiques était de plus en plus décontracté, on va dire, pour ne pas être méchant, par rapport à ce que Montesquieu appelait la vertu. Et bien, quand les gens ne sont plus vertueux parce que, il faut mettre des textes. L'esprit des lois, c'est 1748. L'esprit des lois, 1748, c'est après le pouvoir absolu de la royauté. Nos ancêtres se sont battus pour ça. Et qu'est-ce qui était ? Les semences de corruption ne détruisent pas les lois, mais elles les affaiblissent. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe.
Mais les semences de corruption. On était encore sous l'Ancien Régime, tout de même.
Je suis d'accord. On est encore sous l'Ancien Régime. Après, mais c'est au moment
c'est ce
où
va
on
inspirer,
écrit.
C'est ce qui va voilà. inspirer.
L'esprit des lois, on l'écrit.
Les Lumières, et puis.
Oui, oui.
La République ensuite.
1789, c'est après 1748. Mais, je suis d'accord.
Mais alors, bon, je voudrais quand même qu'on aborde maintenant ce sujet qui est en filigrane quasiment depuis le début de l'émission, c'est-à-dire on entend encore de nouveau parler à l'occasion de cette affaire de la République des juges, du pouvoir des juges qui serait devenu exorbitant en France, qui interférerait de plus en plus dans la vie politique et même les élections. Rappelons l'affaire Fillon pendant la campagne présidentielle de 2017, l'affaire Marine Le Pen en cours, qui, on peut le penser, ne pourra sans doute pas se présenter à l'élection présidentielle de 2027. On a ressorti aussi la fameuse affaire dite du mur des cons. Alors, est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, il y a peut-être effectivement une dérive du pouvoir des juges, ou est-ce qu'au contraire, comme ça semble être le cas de Marie-Christine Monnoyer notamment, on assiste à, aujourd'hui à une remise en cause de plus en plus fréquente des décisions de justice en France, dont il faut s'inquiéter. Alors, je vais passer la parole d'abord à Alexis Chanu.
Je vais vous citer une anecdote. Quand on a visité le Conseil constitutionnel une fois, à
les
Paris,
étudiants.
Ouais, j'étais,
moi, j'y suis allé aussi avec mes étudiants.
Je
les ai emmenés.
J'étais avec une association de le Parlement des étudiants de Toulouse. On était avec Pierre Espuglas.
Et venu il n'y a pas si longtemps dans cette émission.
Et on croise l'ancien président du Conseil constitutionnel, c'était Laurent Fabius. Et c'était sur la décision, je crois, de... alors, je ne sais plus, c'était sur le traitement d'incarcération, je crois, des étrangers en France ou quelque chose comme ça. Et il nous avait dit, alors, on le croise dans le couloir, alors vous pensez qu'on va faire quoi ? Quelle sera notre décision ? Et moi, j'ose dire, je suis député dans le droit, je dis, en fonction de ce que vous pensez. Il me dit, mais enfin, monsieur, nous sommes objectifs totalement.
Nous sommes, je n'ai pas compris.
Objectifs. Ah. C'est bien connu que les hommes...
Mon professeur de droit me dit, mais évidemment, cela va de soi. Et au fond de moi, je me suis dit, mais enfin, être complètement objectif, c'est quand même assez compliqué quand les sujets sont assez graves. Il y a toujours une part de nous-mêmes, c'est humain. On ne peut pas faire un effort suprême d'être 100% objectif. La décision tombe, pareil, un tollé, tout le monde conteste... Et donc, j'ai l'impression que c'est... Alors, je suis d'accord avec beaucoup de choses, mais le problème, c'est que vous pouvez mettre affiché devant tous les citoyens français Montesquieu ou tout ce que vous voulez, mais les gens, aujourd'hui, je pense pas que ça leur fasse grand-chose, en réalité. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le sentiment qui gronde. J'en suis convaincu parce que je parle avec beaucoup de personnes, et c'est le sentiment... Encore une fois, je parle vraiment de sentiment, et c'est quelque chose de très important.
On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas.
C'est ça. Et aujourd'hui, quand il y a, par exemple, un procès, et que je discute avec les gens, ils disent, ils nous disent toujours la peine la plus basse, parce qu'ils savent que voilà, c'est... Pour eux, il y a un sentiment d'injustice, en réalité.
Ce qui s'est passé récemment avec ce policier-là, qui a été complètement massacré... par des jeunes, comme on dit publiquement.
C'est ça, et pour le coup, les policiers, ils vivent, ouais. H20, enfin, ils vivent quotidiennement avec nous.
Parce que c'est ça, c'est la disparité de traitement entre ces jeunes qui ont effectivement massacré un policier, lynché un policier, et puis Nicolas Sarkozy, dont ils estiment à tort ou à raison, qui n'est pas dangereux, lui, pour eux, en tant que citoyen. Je pense que c'est là que ça...
Après, Nicolas Sarkozy ne connaisse pas des policiers, mais je conviens sur le fait que vous pensez que c'est très grave. Moi, je considère que, évidemment, oui. Mais aujourd'hui, vous me parlez de vertu, mais je suis convaincu que par exemple, Marine Le Pen s'est sortie, il y a une majorité de Français qui se sont insurgés.
Oui.
Alors, oui, non, c'est la loi, peut-être que non.
Surtout que le RN continue à monter dans les sondages.
C'est ça, mais dans tous les cas, les gens, je pense que le RN pourrait être accusé de n'importe quoi, il passerait quand même. Et où ?
Pauline, Louis Pomponne, par rapport à la question que j'ai posée, que vous vous inquiétez,
oui,
justement.
Moi, ça m'interpelle beaucoup à ce que vous dites, parce que, encore, je vais revenir sur mes principes de la démocratie, c'est la séparation des pouvoirs. Et ça ne me choque pas du tout que la justice passe auprès des hommes politiques. Enfin, ce sont des personnes qui ont d'énormes responsabilités dans notre société. Non, c'est tout à fait normal.
Je ne pense pas que c'est ce que remet en cause Alexis Fanu. Le problème, c'est la façon dont la population ressent ces décisions.
Alors, je pense que la population, elle...
Qu'est-ce qui se passe? On leur explique mal les choses?
Je pense qu'il y a eu dans l'entourage de Nicolas Sarkozy des réactions à cette condamnation, et c'est normal, on est tous des humains, on a des réactions, forcément. Moi, j'imagine que si mon mari était, était condamné, je ne le défendrais peut-être pas, d'ailleurs, s'il était... ça dépend ce qu'il
ça
a
dépend,
fait,
oui.
Et voilà, et quelle est mon intime conviction, hein. Voilà. Moi, je ne suis pas du tout choquée par ça, mais je pense qu'il y a aussi une atmosphère de communication autour de ces condamnations qui jettent le discrédit de la part d'hommes politiques, très souvent, et de femmes politiques, malheureusement, sur les décisions de justice, et qui vont
entretenir...
Il y a
même des avocats qui les ont critiqués, cette décision.
Tout à fait.
Cette décision, hein.
Et qui vont entretenir ce climat de suspicion, et du coup, qui donne, entre guillemets, la permission à tout un chacun de s'insurger sur ces choses-là.
Et de douter du bien fondé de la décision.
Or, quand on détourne des millions d'euros publics, c'est grave. Quand on va chercher le soutien d'un terroriste libyen pour financer sa campagne et arriver au pouvoir, c'est grave. Ce sont des faits graves, même si dans notre sécurité corporelle individuelle, on n'est pas vraiment menacé. Mais c'est un autre type de sécurité qu'on soude. À mon sens, qu'on sous-estime grandement dans notre société.
Marie-Christine Monnoyer.
Si vous voulez, vous avez sans doute lu ce qui s'est passé hier et avant-hier avec les décisions de M. Trump de placer devant la justice des personnes qui sont en responsabilité dans leur pays, avec des dossiers qui sont gros comme ça, quoi. Il n'y a rien dedans.
Alors, les gens ne vous voient pas. Hein, mais
oui, c'est vrai.
Des dossiers très fins.
2 centimètres.
Je traduis le geste.
C'est l'avantage de parler devant une petite équipe. On a l'impression d'être aussi vu. Et ça, c'est... Quand vous lisez ça de ce côté-ci de l'Atlantique, vous vous dites, un président américain est en train de modifier l'organisation de la justice à des fins personnelles. Vous vous rendez compte si ça se passait chez nous?
Ah ben, il y a des gens qui parlent de Trumpisation.
Mais j'ai écrit dans mes petites notes
française.
Trumpisation. C'est exactement ça qui est en sous-jacent. Et donc, on ne peut pas analyser ce qui se passe chez nous sans avoir une certaine référence. Parce que comme vous le disiez tout à l'heure, et je m'adresse aux jeunes étudiants en droit, cette crainte et ces éléments de colère, ils se diffusent dans tous les pays et un peu partout. Soit d'ailleurs en penchant vers la droite, soit parfois en penchant vers l'extrême gauche. Donc au fond, c'est peut-être beaucoup plus compliqué que la question tout le monde n'est pas à la même enseigne vis-à-vis du juge, et parce que la politique des juges, etc., on en a parlé en Italie, on en a parlé en Allemagne, on en a parlé. Donc, au fond, les passions s'expriment plus fortement qu'autrefois, en particulier vis-à-vis des responsables judiciaires ou des responsables administratifs. Dans ces conditions, il faut être attentif à la colère, essayer de comprendre la colère, mais pas forcément de satisfaire la colère. Ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure sur l'évolution des textes, c'est qu'au fond, ce sont ceux que nous avons élus qui ont défini des formes de textes de loi plus sévères parce que les hommes politiques allaient à volo. Bon, alors on revient en arrière, qu'est-ce qu'on fait?
On applique la loi déjà, mais partout.
On applique la loi.
Pas seulement pour les hommes politiques, mais pour tout le monde.
D'autant plus, il faut ajouter ça. Madame la juge, je ne sais plus comment elle s'appelle, Madame Gavarino, Monsieur Sarkozy aurait très bien pu, au début, dire « Je réfute que ce soit Madame Gavarino qui soit la présidente du tribunal ». Il ne l'a pas fait. Et il ne l'a pas fait.
C'est elle qui était à la main d'œuvre dans l'affaire Fillon.
C'était elle qui était à la main d'œuvre. Et de ce fait, il aurait pu la réfuter. Et il ne l'a pas fait. Donc, quelque part, il n'avait pas, a priori, de méfiance.
Et ou de plus, défiance plutôt.
Oui, d'accord, de défiance. Hein. Et en plus, elle avait été à la manœuvre à l'affaire Fillon, mais elle n'avait jamais eu de situation gravissime par rapport à d'autres élus de ce côté-là. Donc il n'y avait pas de défiance. C'est un point important.
En tout cas, il ne l'a pas réfuté, ça c'est
non,
vrai.
Non, il ne l'a pas réfuté.
Alors il y a un point que je voulais aborder, peut-être que vous me direz qu'il est marginal dans cette affaire, mais il va me faire une transition pour le sujet suivant, notre deuxième débat. C'est qu'au départ de l'affaire, il y avait un document qui avait été révélé en 2012, hein, parce qu'il y a 12 ans, que ça traîne, 13 ans même que ça traîne cette affaire, par Mediapart. Oui. Document daté de 2006, signé par le fameux Moussa Koussa, alors chef des services secrets libyens, et c'était un texte qui faisait accord d'un état de qui faisait état d'un accord de principe pour financer la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy à l'époque, on était, oui, 2006, c'était plutôt celle de 2007, avec une somme de 50 millions d'euros. Et le tribunal correctionnel de Paris a estimé que ce document était probablement un faux. Et je dis bien, c'est le tribunal qui dit ça. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette partie du jugement, ce qui a été relevé à ce moment-là, Pauline Albouy-Pomponne?
Ça montre qu'il y a eu un travail d'analyse qui a été fait, qu'il y a des pièces qui ont été écartées. Moi, je trouve que c'est plutôt positif dans la confiance qu'on peut avoir sur le processus, si jamais on a des doutes. Moi, je réitère que là, je fais confiance à la justice.
Faites confiance à Mediapart après un truc comme ça?
Je fais confiance à Mediapart. Alors, Mediapart, c'est un média qui est engagé. Voilà. Donc, il faut le prendre comme ça.
Oui, engagé au point de faire défaut qui mettent la réputation d'un homme politique c'est à mal, c'est un peu embêtant. Marie-Christine,
mais c'est alors pas Mediapart qui rend les décisions de justice dans notre pays,
c'est le point Mediapart qui m'intéresse.
Non, mais c'est évidemment un point extrêmement important, mais dans les textes, les 450 pages que nous n'avons lues ni les uns ni les autres, il est aussi rappelé que cette décision du tribunal, mais aussi cette inquiétude par rapport à la réalité de ce texte. Il est dit que à la date qui est donnée, le 6 novembre, je crois, à la date qui est donnée, les condamnés actuels, pas M. Sarkozy évidemment, mais enfin M. Guéant par exemple, étaient bien dans le lieu dans lequel on a dit que les sommes avaient été versées. Alors,
non mais ça a été, comment dire... jugé par un autre faisceau de présomption. Moi, je parle vraiment du document. Là. Qu'est-ce que ça vous inspire qu'on ait pu produire un faux comme ça? Qu'un média qu'aujourd'hui auquel beaucoup de gens se réfèrent ait pu faire ça?
Non, mais ce qu'il y a, c'est que généralement, quand il l'a proposé, il ne savait pas qu'il était faux. Je ne pense pas qu'il le savait. La décision du juge a été postérieure.
Non, mais je ne parle pas du jugement. Moi, je parle du fait que Mediapart ait pu produire ce document qui est probablement un faux.
Bah oui, mais quand vous produisez un document et que vous ne savez pas s'il est faux, je ne dépends pas du tout de Mediapart, il est souvent tellement virulent que c'est difficile à vivre. Mais vous avez un document, vous le regardez sur toutes les coutures et vous l'estimez juste. Et après, on vous dit qu'il était faux. J'espère, et je n'en sais rien, que Mediapart a fait une amende honorable forte en disant...
Je n'ai rien vu en ce sens, moi, personnellement.
Voilà. Oui. Ça serait logique que quand
au minimum qu'on s'excuse.
Voilà, ça serait normal.
Alexis Chanus.
C'est dangereux. C'est extrêmement dangereux. Ça veut dire que demain, n'importe quel média peut produire quelque chose qui est éminemment faux, avoir des accusations extrêmement graves. Parce que derrière, il n'y a pas seulement le jugement de la justice, il y a aussi le jugement de l'opinion publique.
Et bien sûr.
Et ça peut changer des vies.
Et ça va encore dans le sens de ce que vous disiez, c'est-à-dire que les gens maintenant ne font plus confiance à personne. Ni aux élus, ni aux juges, ni aux médias.
Ils sont très méfiants. Et ce qui est catastrophique, on ne va pas se mentir. Mais en réalité, voilà, ça prouve que demain, un média qui... Je le dis vulgairement, je vais y arriver, qui ne peut pas saquer quelqu'un, il peut produire n'importe quel faux, n'importe quel document extrêmement grave.
Pour salir sa réputation.
Pouvant le nuire, exactement, nuire à sa famille également, parce que ce n'est pas une seule personne, hein, c'est toute une famille qui subit.
C'est ce que font les réseaux sociaux. Hein.
Exactement, pareil, ça, c'est tout aussi déplorable. Mais voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut être encore plus attentif, encore plus sur ses gardes, encore plus méfiant. Et le problème, c'est que ça tue aussi une société, parce que ça veut dire qu'on est méfiant de tout le monde.
Ça veut dire aussi qu'il faut lire plusieurs médias.
Exactement,
oui,
bien sûr. Mais c'est comme sur les réseaux sociaux, quand je peux vous faire une thèse sur l'algorithme. Pareil, C'est-à-dire que quand on regarde, je ne sais pas, imaginons une vidéo d'un chat, eh bien, il y a 20 vidéos de chats qui arrivent derrière. Donc ça nous enferme là aussi. Et le problème, c'est cette diversité, cette capacité aussi à je ne vais pas dire, à avoir le vrai du faux, mais quelque part avoir aussi un esprit critique. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, peu de personnes ont la volonté de confronter leur idée. Quoi.
C'est pourtant un des jobs que les professeurs, et puisque c'est ma vie de prof derrière moi, développer l'esprit critique de la jeune génération, ça doit être un des objectifs de chaque enseignant.
Et la capacité à débattre.
Et la capacité à débattre.
Et
à
entendre des arguments d'autrui. Et à les respecter. Et nous allons, pour notre part, en rester là concernant ce premier débat, sachant que Nicolas Sarkozy a fait appel de ce jugement, je le rappelle, avec son procès en appel, devrait avoir lieu avant le 25 mars prochain. Nous allons faire l'habituelle pause dans cette émission. On se retrouve dans une vingtaine de secondes pour un deuxième débat. À tout de suite.
La mêlée de l'info, Éric Dupri.
Nous revoici, je suis toujours en compagnie de Marie-Christine Monnoyer, Pauline Albouy-Pomponne et Alexis Chanu. Il n'y a pas que les décisions de justice qui sont remises en cause dans notre pays. Il y a aussi depuis quelque temps, et nous venons d'en parler, l'impartialité des médias du service public. Alors Mediapart n'en fait pas partie, certes. Et le respect du pluralisme des opinions et des orientations politiques à Radio France ou sur France Télévisions. La récente publication d'un rapport de la Cour des comptes sur la situation financière de France Télévisions pointe maintenant du doigt ce média présidé par Delphine Ernotte pour une autre raison, la gestion et l'utilisation de l'argent public. En effet, en dépit de plusieurs restructurations et d'économies réalisées sur les programmes, les déficits de résultats nets de France Télévisions se sont accumulés sur la période 2017-2024 à hauteur tout de même de 256 millions d'euros. Est-ce que vous êtes étonné, voire choqué, des constatations de ce rapport de la Cour des comptes et quelles conclusions en tirez-vous ? Nous allons commencer avec Pauline Albouy-Pomponne, qui, je suis sûr, est une fervente défenseuse du service public.
Tout à fait. Tout à fait. Et je trouve que c'est fondamental que l'État puisse investir dans un média qui ne soit pas manipulé par le pouvoir. Donc là encore, hein, séparation des pouvoirs. C'est important que ce soit public, mais c'est fondamental qu'il ne soit pas piloté par le gouvernement. Pour avoir dans le paysage médiatique aujourd'hui, qui est quand même dominé par des gros investisseurs idéologues qui nous poussent des idées qui, moi, personnellement, me donnent envie de vomir. Et vraiment avoir une pluralité de l'info et de la prise de parole sur ces antennes-là. Donc ça ne me choque pas que ça coûte de l'argent à l'État. J'ai lu attentivement la synthèse du rapport de la Cour des comptes. France Télévisions, en fait, l'audiovisuel est un secteur qui est en profonde transformation par l'arrivée des technologies numériques, donc qui a dû se remettre en cause profondément depuis une quinzaine d'années, vingtaine d'années. Donc, et dans ce rapport, il y a le fait que France Télé a fait un certain nombre de transformations, qu'il y a même des bénéfices financiers qui sont déjà acquis sur des mutualisations, qu'il y a encore du chemin à faire, certes, mais qu'il y a déjà une partie de la transformation qui a été faite. Ce qui reste à faire, c'est surtout sur les territoires, hein, c'est la convergence sur les antennes régionales, mais locales. Donc, moi, j'y vois, oui, évidemment, il y a des sujets qui peuvent être remis en question. On peut questionner les salaires, on peut questionner les avantages des cadres. Effectivement, on n'a pas besoin de voiture quand on habite Paris, quand on travaille à Paris. Bon, suffisamment, l'infrastructure de transport public est suffisamment robuste pour pouvoir se déplacer. J'allais dire... Et puis, il y a toute une conjoncture qui a pesé à hauteur de 140 millions, hein, je crois, sur les comptes.
Quelle conjoncture ?
Il y a eu le Covid, il y a eu des rétractations de l'État, puisqu'il y a une partie du budget qui est financée par l'État qui a été assez mouvante, pas dans le bon sens pour France Télé. Ça a été boosté quand même en 2024 par les Jeux Olympiques et Paralympiques qui ont boosté un peu les recettes. Mais il y a Il n'y a pas que du structurel, il y a du structurel, il en reste, il faut faire ce qu'il faut
voilà, c'est comme continuer. Pour le budget de l'État, faut faire des économies.
Non, mais il faut continuer la transformation. Et mais France Télévisions, moi, mon métier, c'est d'accompagner les transformations des organisations. Donc, je sais que ça prend du temps. Que déjà, franchement, pensons à ce qu'était France Télé il y a 15 ans en arrière. Voilà, c'est quand même une organisation qui a évolué, qui s'est doté de nouvelles compétences. Il y a eu des ratés, comme la plateforme, j'ai oublié son nom, là, qui était avec TF1 et M6, donc qui a coûté aussi hein, 56 millions, hein, voilà, une suite au retrait de TF1. Donc voilà, je veux dire, France Télé n'est pas non plus responsable de l'ensemble de l'étendue des dégâts, mais c'est vrai que, et notamment dans la conjoncture actuelle, il faut être attentif à l'utilisation du denier public. Et ne pas, voilà, peut-être être donc, plus raisonnable. Mais encore une fois, les voitures de fonction,
si je résume ce que vous avez dit, il n'y a rien qui vous a fondamentalement choqué, si je comprends bien, dans ce rapport de la Cour des comptes.
Il a le mérite d'exister.
En tout cas, il jette l'argent public par les fenêtres.
Je n'ai pas l'impression.
Alexis Chanu.
Je la rejoins sur le fait qu'il faut réformer, dans tous les cas. Il y a une volonté et il y a le devoir aussi de réformer. Effectivement, moi je considère qu'effectivement l'argent public c'est quelque chose qui est sacré. Et que chaque euro dépensé doit l'être avec rigueur et avec justification.
Et c'est ce que j'allais dire, de façon justifiée.
C'est ça, bon, je suis d'accord que. Alors on peut dire ce qu'on veut sur les chauffeurs, sur les 800 000 euros, tout ça. Mais...
Oui, il y a 800 000 euros de hausse de frais de taxi d'une année à l'autre.
Exactement.
Ça paraît un peu étonnant.
C'est quand même 800 000 euros.
C'est pas une petite somme. En une année, j'y viens.
C'est pour ça. Et après, le service public doit être réformé. Je pense viscéralement qu'il doit se concentrer sur ses missions essentielles, à savoir informer avec fiabilité, éduquer, promouvoir la culture. Valoriser les territoires plutôt que chercher à concurrencer Netflix ou TF1. Je pense que c'est pas leur but premier. Que dire d'autre ? Il faut instaurer bien entendu une véritable transparence avec la publication pourquoi pas annuelle des coûts de production, des indicateurs de performance, les contrôles avec des contrôles parlementaires renforcés aussi. C'est important.
La courbe des salaires peut-être aussi, sans parler de salaires. Personnalisé, je veux dire, globalement, quoi, ça peut être intéressant.
Oui, voilà, mais encore une fois, quand on sait que les Français comptent chaque euro, vraiment, l'État doit être, je pense, exemplaire.
Et tout ce qui relève normalement de l'argent public doit être transparent et doit pouvoir être consulté par le citoyen, je le rappelle.
C'est ça, donc il doit retrouver le sens de cet esprit de service public.
Alors pour revenir juste, je donne un point, hein, il y a ce qu'a relevé la Cour des comptes pour France Télévisions, c'est que malgré une baisse des effectifs, la masse salariale n'a pas diminué. Ça aussi, ça interroge un petit peu tout de même. Marie-Christine Monnoyer, sans faire de populisme, ne m'accusez pas d'être populiste.
Non, mais je n'ai pas du tout envie de vous accuser de quoi que ce soit. D'abord, je suis toujours extrêmement intéressée par les rapports de la Cour des comptes.
Bien oui.
Et souvent, je trouve qu'on ne les lit pas assez.
Ah, mais comment ?
Et j'aimerais que lorsque la Cour des comptes pointe tel ou tel organisme, quelque part, il soit... excusez-moi, obligés de rendre des comptes. Oui. C'est-à-dire d'expliquer pourquoi, finalement, ils ont dépensé 800 000 euros en taxi.
Mais ça va
être fait
parce qu'elles vont être sanctionnées au Sénat.
Sont convoquées à l'ARCOM.
Et c'est indispensable.
Sybille Veil et Delphine Arnaud. Donc voilà. Radio France et France Télévisions.
Donc la Cour des comptes, heureusement qu'elle existe. Maintenant, on a même une Cour des comptes régionale. Ça n'est pas mal du tout. Et c'est toujours une source d'informations extrêmement intéressante. Donc, quand la Cour des comptes dit « je ne comprends pas pourquoi, avec moins de personnes, on a des frais salariaux augmentés », c'est gênant. Hein, c'est gênant, ça veut dire...
En tout cas, ça mérite des explications.
Ça mérite très nettement des explications, parce que les salaires n'ont pas si profondément augmenté dans l'ensemble de la population française. Alors... En revanche, il y a des choses qui peuvent être expliquées et qui sont peut-être un peu sous-expliquées dans ce rapport de la Cour des comptes. Et je me rapproche de ce que vous avez un petit peu dit. Ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que on ne fait plus de la radio, on ne fait plus de la télévision, on ne fait plus des journaux de la même façon que ce qu'on faisait il y a 5 ans. Vous avez tous remarqué que toutes les radios, toutes les télévisions vous disent « Vous pouvez aller sur notre site pour en savoir davantage sur ceci et ceci et ceci. » Or, ça, c'est beaucoup de travail. Moi qui anime 3 sites web, je sais, et bénévolement, je sais que ça me prend beaucoup de temps. Et pourtant, je le fais avec soin parce qu'il me semble que c'est une des façons de s'informer aujourd'hui. Alors peut-être que dans l'histoire des salaires, ou etc., ou dans l'histoire des dépenses qui sont trop importantes, il y a ça, cette transformation qui fait que, je ne vais pas dire la radio de papa, parce que ce n'est quand même pas aussi vieux que ça, mais on est très impressionné par l'évolution des médias et de la façon dont les gens consomment du média. Je vois bien que même dans la rue, maintenant les gens marchent tête baissée avec leur téléphone et ils marchent, ils regardent pas ce qu'il y a devant eux et qui regardent pas uniquement des réseaux sociaux, mais qu'ils consultent. Je vois bien que les sites web que j'anime, ils sont consultés sur des téléphones. Donc, en fait, c'est ça qui se passe. Et si les médias ne font pas ça, ils ne sont plus écoutés. On ne voit plus de gens qui lisent le journal dans la rue. Il n'y en a plus, ni dans le métro, que je prends beaucoup, ni dans le bus, ni dans le train. Ils consomment tout ça sur leur téléphone. Et ça, c'est un sacré travail. Alors, je ne sais pas si la Cour des comptes, j'aimerais bien le demander.
Ça n'a pas été relevé, ça, en tout cas, que ça pourrait expliquer, parce que ce que vous dites, en fait, c'est que, parce que je dis bien, les effectifs ont baissé. Hein. Donc, on n'a pas embauché des gens pour faire ce travail-là.
Non.
Alors, en revanche, est-ce qu'on a embauché des gens qui seraient plus qualifiés, qui donc coûteraient plus cher? Ça peut être une part de l'explication.
Ça peut être une
certainement
part
pas tout. Ce qui a été pointé, en revanche, c'est certains niveaux de salaire, quand même.
Voilà. Et puis, ce qui a été pointé, c'est l'histoire des...
Pour des gens qui, en plus, ont d'autres emplois ailleurs, dans d'autres médias.
Et ceux qui prennent trop le taxi alors qu'ils pourraient prendre le métro, c'est pareil.
Donc,
mérite qu'on vous tape sur les doigts et que vous fassiez attention. Et comme on l'a vu, même sur certains députés ou sur certains qui avaient une tendance très nette à prendre le taxi...
Un devoir d'exemplarité.
Oui, ben, dès qu'on touche de l'argent public, on a un devoir d'exemplarité, de justification de ce qu'on en fait. Ça me semble la moindre des choses. Est-ce qu'il faudrait quand même se poser la question à un moment donné de remettre à plat le fonctionnement de notre service public audiovisuel, que ce soit la radio ou la télévision, et par exemple se poser des questions, est-ce qu'on a besoin d'avoir autant de chaînes publiques de télévision? Est-ce qu'on a besoin d'avoir autant de stations de radio publiques? Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'il faut poser ou selon vous, le problème n'est pas du tout là? Pauline Albouy.
Alors, je ne suis pas assez spécialiste du paysage des médias pour savoir s'il y a trop de chaînes publiques. Aujourd'hui, je sais que chaque chaîne a sa personnalité, son identité, son public. Hein. Une des grosses forces de France Télé, c'est son audience quand même, hein, qui a évolué sur la période 2017-2024 qui a été étudiée là. Donc, moi, je me méfie de la concentration. Pourquoi? Parce que, encore une fois, j'ai 30 ans de carrière dans l'accompagnement de la transformation des organisations. Quand on fait des éléphants, ça ne marche pas mieux. On a beaucoup plus d'inertie. Je pense qu'il vaut mieux travailler l'agilité de cette organisation, de ces organisations, plutôt que d'une mutualisation forcée. Voilà. C'est un acteur très important, France Télé, hein, dans notre paysage, et culturel aussi. Hein. C'est un producteur de cinéma, donc c'est un financeur.
Oui, on pourrait se poser la question de la qualité des films qu'il finance, peut-être.
Enfin, oui. Il en faut pour tout le monde, de la culture.
Ouais. Le goût et les couleurs.
Et oui. Non, mais il ne faut pas non plus être élitiste dans ces réflexions-là. Franchement,
quand je dis les films, ça peut être les séries aussi.
Le côté populaire de France 3, notamment, est très important pour notre cohésion sociale. Enfin, je veux dire, c'est des marqueurs culturels qui sont très, très importants.
Le populaire peut être de qualité, ce n'est pas du tout mon propos. Ouais,
oui.
Mais il y a du populaire de mauvaise qualité aussi.
Il y a aussi, mais aussi de l'élitiste de mauvaise qualité.
Bien sûr, beaucoup même. Alexis Chanu, vous pensez qu'on fera peut-être se poser la question, est-ce qu'on a besoin d'autant de chaînes de télévision publiques, d'autant de radios publiques?
La question se posera au moment où les audiences baisseront. Voilà, c'est vrai que j'ai entendu aussi qu'il y avait l'hypothèse de la privatisation aussi. Je ne suis pas forcément très favorable à cela, je suis d'accord sur le fait que... Mais encore une fois, il faut vraiment qu'on revienne aux fondamentaux, à savoir éduquer, valoriser la culture, les territoires... Est-ce qu'on a besoin d'autant de chaînes? Je ne sais pas.
Vous avez l'impression, par exemple, que le service public valorise bien la culture? Qu'il y a des émissions vraiment intéressantes, de qualité?
Ah, je pense qu'elle pourrait faire mieux, c'est une évidence. Mais peut-être que cela changera.
Marie-Christine Monnoyer, vous devez regarder des émissions culturelles sur France Télévisions ou sur écouter sur les radios publiques.
Je n'en écoute pas beaucoup parce que moi, je lis énormément et que lire, ça prend beaucoup de temps. Alors, je regarde très
peu. Mais peut-être que vous ne les regardez pas parce que vous savez que ça ne va pas vous intéresser.
Je ne sais pas. Et je ne voudrais pas faire d'a priori. Ce qui me semble, c'est que vous avez dit tout à l'heure, lorsque l'on concentre, ça ne va pas forcément beaucoup mieux. C'est ce que j'ai enseigné longtemps. C'est ce que j'ai enseigné longtemps à l'université. Parce qu'on a fait beaucoup grandir les entreprises, en particulier en faisant des fusions-acquisitions. Et quand je travaillais sur la question des fusions-acquisitions, je voyais que les résultats étaient très souvent très inférieurs à ce que l'on avait imaginé et espéré. Donc ce n'est pas parce qu'on fusionne et qu'on diminue le nombre de responsables que c'est plus efficient et que c'est plus rentable. Non.
Ça, on l'a vu avec les régions, par exemple.
Voilà, on le sait. Donc, si vous voulez, on peut quand même le ressortir, même pour des médias. Et puis, l'autre point, c'est qu'effectivement, les médias publics, ils ont en ce moment pas mal d'audience. Et ils sont en face de médias privés qui sont aussi extrêmement puissants. Et qui, parfois, sont capables de mettre des fonds dans ces médias qu'ils vont chercher ailleurs sans être obligés de demander des rallonges budgétaires, etc.
C'est le principe du privé.
C'est le principe du privé. Or, nous savons que maintenant, il y a des médias privés qui sont extrêmement puissants. Donc, je n'ai pas vraiment l'impression que ce soit le moment de réduire à la portion congrue les médias publics alors qu'ils ont de bonnes audiences, alors que, comme on le rappelait, ici, on est à Toulouse, et moi, je suis souvent dans le Lauragais. Eh bien, quand on est dans le Lauragais ou quand on est à Lavaur, on a besoin d'avoir des médias qui parlent de vous ou qui vous informent sans être forcément dirigés depuis Paris, mais d'avoir pris le temps d'être intégrés dans ce que l'on appelle la ruralité.
Je prends un exemple tout simple dans le Lauragais. Il y avait notamment une émission avec Cyril Ferraud, c'était la carte au trésor. Et qui a permis notamment aussi de faire découvrir des paysages. Et en l'occurrence, comme c'était un peu à côté de chez moi, j'étais assez content. Mais encore une fois, c'est cela, c'est aller partout en France et ne pas rester seulement sur Paris. On a de beaux paysages, il faut en faire profiter tout le monde.
Et bien c'est ce qu'on voit aussi dans une excellente émission de la télé publique que j'aime beaucoup regarder, qui s'appelle « Des racines et des ailes ».
Alors, c'est une très jolie émission.
Je vais clore ce second débat, mais ce n'est pas impossible qu'on reparle prochainement encore du service public et de la façon dont il est géré en France. C'est la fin de l'émission bientôt, il nous reste un peu de temps, pour une fois, pour vos coups de gueule ou vos coups de cœur du jour, j'imagine que vous y avez réfléchi. C'est Alexis Chanu qui va ouvrir le bal.
C'est pas vraiment un coup de gueule ni un coup de cœur, c'est un fait, c'est le sondage qu'il y a eu Doxa,
sur ça peut être un des sujets de l'émission.
Sur les présidentielles, qui malgré tout est sujet à réflexion. Voilà, sur beaucoup de choses, et notamment nous, chez les LR, c'est quelque chose où on prend acte.
Va donner les chiffres. Qu'est-ce qu'il dit ce sondage?
33% d'intention de vote pour le Rassemblement National, quel que soit le candidat,
ouais, si c'est Jordan Bardella ou Marine Le Pen.
Et ensuite, ça serait les candidats du centre entre 16 et 20%. Voilà. Nous, les LR, on serait entre 9 et 13%. Et donc voilà, ça traduit quelque chose aussi, ça traduit une colère sociale, ça, une soif d'autorité. Alors mesurée, hein, faut pas que ce soit autoritaire partout non plus, mais une soif d'autorité. Et il y a aussi malheureusement une crise de confiance envers les partis politiques.
Ça rejoint notre premier débat,
les partis politiques,
le second, d'une certaine manière.
Traditionnels. Donc les gens se disent, on a essayé à gauche, on a essayé à droite, on a essayé au centre, on va aller encore plus loin. Oui. Et là, j'avoue qu'on est tous fautifs, tout le monde est fautif.
Oui, enfin, j'ai vu des sondages où effectivement Marine Le Pen et Jordan Bardella seraient à 33 voire 35%, et derrière ce qui arrive en deuxième position serait à 15-16.
Ouais.
Donc effectivement, ça interroge, l'écart est énorme, ce qui n'était pas le cas auparavant. Marie-Christine Monnoyer.
Alors, moi j'ai été impressionnée par quelque chose qui peut être considéré comme une mini-décision, mais que je trouve extrêmement importante, justement à propos de la gestion des fonds publics. Puisque maintenant, chacun des assurés sociaux va recevoir très régulièrement le montant des sommes qui lui ont été remboursées, le montant des sommes qu'il a versées parce qu'il est un assuré social. Et comme ça, il pourra prendre la mesure de ce qu'il coûte,
oui,
ou de ce qu'il rapporte à la sécurité sociale. Et je trouve que c'est extrêmement important. Parce que pour chacun d'entre nous, et je suppose que tous ceux qui nous écoutent sont très largement des assurés sociaux, il est parfois difficile de se rendre compte exactement de ce qui se passe. Tout d'abord, parce que quand on va à la pharmacie et qu'on vous dit « vous n'avez rien à payer », en fait, on ne sait pas ce que ça a coûté à la sécurité sociale. Et lorsque l'on est malade, profondément malade et qu'on est hospitalisé, et on ne sait pas du tout forcément ce que cela coûte, et en plus on dit oui, mais enfin, c'est ça, c'est la conquête de la sécurité sociale. C'est
et on cotise pour ça.
Et on cotise pour ça. Et en fait, si vous regardez bien, une partie non négligeable de la population reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce qu'elle ne participe.
Bien sûr.
Et en particulier, tous ceux qui ne sont plus des tout jeunes. Et donc, il faut se rendre compte de l'effort que cela représente. Alors, eh bien, comme ça, on le saura et on ne pourra pas dire « je ne savais pas ».
Alors, ça va peut-être culpabiliser des gens qui ont des traitements qui coûtent très cher. Et qui
ça va, ça va les informer de l'effort que fait le pays pour eux.
Pauline, elle vous pomponne.
Alors, moi, je voulais aussi parler du sondage pour partager... partager inquiétude hein, sur effectivement l'importance.
Il n'est pas mauvais pour votre candidat, cela
mais
dit.
Voilà, chez nous, il est un petit peu porteur d'espoir quand même, je dois dire, sur la place publique et sur la portée hein, du message de Raphaël Glucksmann et de notre cap clair, message clair, que nous aurons le plaisir de diffuser ce week-end à nos rencontres de l'Aréole. Donc je vous invite à venir samedi et dimanche à nos nombreuses tables rondes. Moi, j'aurai le plaisir de débattre sur... la société de la sollicitude, est-ce que le prendre soin peut être un projet politique ? Donc, c'est un très beau sujet, je suis très très contente de m'exprimer sur ce sujet lors de ce week-end qui sera forcément très enthousiasmant avec nos partenaires politiques évidemment de la gauche élargie.
Donc voilà. C'est à l'Aréole ce week-end vous avez dit hein ?
Exactement.
C'est la fin de cette 202e mêlée de l'info. Merci beaucoup à vous trois d'en avoir été les invités et d'avoir débattu dans les règles. Eh bien, vous savez vous respecter quand vous prenez la parole. Merci. Je remercie également Coraline Camebrac qui a réalisé ce numéro. Le podcast est disponible et téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site de Radio Présence. Et merci bien sûr à tous nos auditeurs de leur fidélité à cette émission. Rendez-vous jeudi prochain. À bientôt. We'll be right back.